radio Okapi. Okapi.
Okapi service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir et merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières sur www.radiookapi.net. Lutte contre la solitude des personnes trisomiques. On en parle aujourd'hui. Vous savez, chaque 21 mars, le monde célèbre la journée de la trisomie 21 ou le syndrome des Down. On en parle aujourd'hui. Comment organiser un bon accompagnement de ces enfants pour favoriser leur autonomie et inclusion sociale. On en parle aujourd'hui avec Madame Yolande Bagouma, qui est membre de l'association Sans Frontières, ACF en sigle. Madame Bagouma, bonjour.
Bonjour jeudi, c'est déjà Bagunda.
C'est Bagunda, voilà. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Merci. On vous retrouve dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations sur les thèmes du jour. Composez déjà le 085 42 11 547. Quel est le rôle d'un conseiller en évolution professionnelle? On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au centre de réconversion professionnelle. On aura également Monsieur Joseph Moutamboulé, entrepreneur et directeur du Human Capital Development International Center, qui est tout simplement un centre qui s'occupe du développement du capital humain. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Appelez-nous déjà au 085 42 11 547. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Paul Badianyama, à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi, coordonne et réalise cette émission au micro Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans votre émission, votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons échanger aujourd'hui. On va parler des personnes atteintes de la trisomie 21. Vous savez, le 21 mars de chaque année, le monde célèbre cette journée de la trisomie 21 ou le syndrome de Down. C'est une anomalie génétique qui se caractérise par un chromosome 21 supplémentaire. L'enfant naît avec 47 chromosomes au lieu de 46, avec comme conséquence des déficiences intellectuelles, des malformations cardiaques, ainsi que des particularités physiques, visage plat, petite taille, retard de développement moteur et de langage, faible tonus musculaire et autres. Alors dans la société, il arrive souvent que ces personnes avec trisomie 21 se sentent seules et vivent dans l'isolement à cause de leurs conditions. Et pourtant, elles ont des talents, des rêves et éprouvent le besoin d'être en relation comme chacun d'entre nous. Alors comment organiser un bon accompagnement de ces personnes pour favoriser leur autonomie et inclusion sociale? On en discute aujourd'hui avec Madame Yolande Bagunda, qui est membre de l'ACF, l'association Sans Frontières. Madame Bagunda, encore une fois bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. La trisomie 21, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est?
Oui, voilà, merci beaucoup Jody pour l'invitation. Je me présenterai avec deux casquettes. Donc j'ai une casquette déjà intime parce que moi-même je suis mère d'une fille trisomique qui a 14 ans, qui aura 15 ans en juin. Elle s'appelle Neema, voilà, qui est connue par beaucoup. Merci. Et deuxième casquette, évidemment, parce que je suis membre de l'association Sans Frontières, qui est représentée par Monsieur Temouni, comme président, vice-présidente, Madame Liliane Temouni. Et voilà, c'est une dame qui s'y bat et qui fait vraiment ce travail noble. Elle est aussi ambassadrice de la Croix-Rouge d'ailleurs par rapport à ce travail qu'elle fait bénévolement pour essayer d'assister les enfants trisomiques. Comme vous l'avez bien dit auparavant, comme si vous étiez expert, c'est vrai que tout être né normalement avec 46 chromosomes. Mais lorsqu'il y a un chromosome de plus, 47, ça crée cette malformation. C'est ça, au fait, trisomie 21, qui n'est pas une maladie, c'est une malformation et qui survient pendant la formation de l'enfant. Et voilà, c'est arrivé. C'est pas un choix. Ça choisit qui ça veut. C'est un handicap parmi tant d'autres.
Et comment vous avez su, par exemple, que votre fille avait ce problème?
En fait, au départ, Neema, elle avait, on n'avait pas eu la chance, comme dans d'autres pays, je veux dire, personnellement, comme d'autres mamans que je rencontre. Pendant la période de grossesse, en principe, dans d'autres pays, il y a un examen amniosynthèse qu'on fait. En principe, c'est un examen qui détecte si l'enfant n'a pas cette malformation. Mais en 2011, lorsque j'ai accouché, il n'y avait pas encore
des signes.
Non, il n'y avait pas cet examen déjà organisé au préalable par
l'hôpital, le pédiatre, le gynécologue.
Ouais. Et du coup, j'ai suivi ma grossesse normalement, je faisais des examens normalement, et puis j'ai accouché. Après la naissance, deux mois après, il y a eu une crise de comme bronchite, comme une toux qui n'arrêtait pas. Et quand je faisais des examens plus approfondis chez le cardiologue, docteur Lubaga, et il avait détecté qu'il y avait vraiment de problèmes très très sérieux de respiration. Il fallait aller encore en profondeur, et c'est alors qu'on avait trouvé qu'il y avait de trous sur les valves. Et très souvent, les enfants trisomiques, ils naissent avec des trous sur les valves parmi tant d'autres malformations.
Au niveau du cœur.
Au niveau du cœur, sur les valves. Oui. Donc, les oxygènes, normalement, ne doivent pas se mélanger. Et malheureusement, quand ça se mélange, ça fait que l'enfant tousse. Et l'enfant ne peut pas évoluer, ne peut pas manger, ne peut pas faire quoi que ce soit. Au contraire, l'enfant perd le poids. Et après les examens approfondis, il fallait aller voir un cardiothérapeute. Cardio-pédiatrique, docteur Chikou au campus, à l'hôpital au campus universitaire.
Clinique universitaire de Kinshasa.
Merci. Et après avoir approfondi des examens, on avait trouvé justement qu'il y avait d'abord le trou sur les cœurs, mais sans pour autant que je sache qu'il y avait une histoire de trisomie derrière. Maintenant, pour pallier à ça, à ce traitement, il fallait se déplacer. On est parti en Afrique du Sud pour les soins. Et c'est parmi tous les examens qu'on avait maintenant effectués qu'on m'apprenait à partir de l'Afrique du Sud que l'enfant était trisomie 21. Je ne savais pas, en dehors de tout ce qu'on a étudié comme chromosome, mais on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait, n'est-ce pas, nous arriver à nous. Donc, j'étais perturbée. Et après des examens, donc, on m'a dit il y aura, en dehors de l'opération à cœur ouvert, il y aura maintenant un problème de retard, de croissance et tout. On vous prépare pour vous y mettre. Donc au début, c'était ça. Et puis après, c'est parti. Après,
et comment vous avez accueilli cette nouvelle-là?
C'est une bombe. C'est un, vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes terrifié, vous êtes traumatisé. Vous avez déjà le souci de l'opération à cœur ouvert, et puis on vous ajoute une malformation, n'est-ce pas, congénitale, qui va créer de retard, on sait ci, on sait là. Donc vous êtes dévasté en tant que parent. Mais comme Dieu, il fait quelque chose et il y a toujours une solution à côté, donc on ne vous dit qu'à être une femme forte pour accompagner cet enfant, pour ne pas perdre l'enfant. C'est alors que vous dites, ok, je serai très forte. Vous commencez maintenant à prendre tous les contacts, à accélérer.
Accepter d'abord la situation.
Accepter la situation, faire de lecture pour en comprendre plus, à discuter avec des gens. Ça n'a pas été facile. la première année, c'était très très dur.
Voilà. Et il semble qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants trisomiques, mais qui les cachent, qui se sentent pas à l'aise, qui veulent pas en parler. Donc ils sont dans une sorte de prison et les enfants sont dans l'isolement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
En fait, c'est seulement, je veux dire, parmi nos, même notre mon rôle au niveau de ACF, c'est essayer un peu de motiver ses parents à ne pas se stigmatiser eux-mêmes au départ, surtout les femmes. C'est-à-dire que l'enfant, évidemment, appartient à un couple, mais il y a aussi de femmes seules, comme moi. Mmh. Vous vivez avec l'enfant, vous allez faire quelle magie avec l'enfant? Donc, vous acceptez d'abord et vous créez votre cercle de personnes qui vont accepter votre histoire et vous accompagner. Ce n'est pas facile. Mmh. Je connais beaucoup de parents. J'encadre beaucoup de mamans. J'échange avec beaucoup de mamans qui n'ont jamais accepté ça.
En fait, et il semble qu'il y a eu même des cas de divorce à cause de ça.
Mais bien entendu, je connais des parents. Il y a des mamans que j'encadre, entre autres, parce que moi, j'ai tellement un cercle des gens qui m'accompagnent. Mes amis, je les ai transformés à mes psychologues, je peux le dire. Mmh. C'est-à-dire que mes amis me traitent et moi, je prends leur traitement, je transfère ça à Néma. Mais ceux-là qui n'acceptent pas, c'est des personnes qui, déjà, ils ne sont pas bien encadrés par rapport, ils restent dans leur bulle. Mais c'est impossible que vous restez seul et que vous ne parlez pas de votre enfant pendant que vous avez vraiment, vraiment besoin d'encadrement. Et ça crée que votre enfant sera exclu. Et pourtant, ce qui est important, c'est l'inclure, en fait. Pour que l'enfant se dise, avec ce handicap, je veux faire comment? Il faut que je sois
l'enfant
encadré.
L'enfant doit aller à l'école.
En principe, oui. Oui. C'est vrai qu'ici, il faut dire qu'on n'a pas de spécialistes. On a très, très peu de logopèdes, par exemple, pour les soucis. C'est des enfants qui naissent avec beaucoup de besoins personnels.
Des problèmes de langage.
Il faut un accompagnement. Oui, il faut les accompagnements psychomoteurs. Il faut que l'enfant soit sous un encadrement de notre niveau. C'est-à-dire que le problème de langage, par exemple, le mot logopédie, j'ai connu ça avec Néma. Parce que pour que l'enfant parle, elle parle en retard. Il faut stimuler les langages. Il faut un professionnel pour ça. Mmh. Il y a des ergothérapeutes. Il y a les problèmes aussi même de pied où il faut voir il faut faire de kiné,
oui.
N'est-ce pas?
Les kinésithérapeutes.
Oui. Il faut voir tous ces professionnels-là qui vous encadrent. En fait, c'est des enfants qui ne peuvent pas vivre sans un encadrement. Du côté déjà scientifique, du côté psychomoteur, du côté, il y a vraiment des réalités qu'il ne faut pas vous garder seul avec votre enfant. Il n'y aura jamais de solution. Néma, elle parle bien aujourd'hui parce qu'elle parle. Elle a une relation personnelle avec chaque connaissance et elle a un langage approprié avec chacune de mes amies, par exemple. Mmh. Donc, du coup, elle évolue comme ça. Mais les autres personnes qui eux-mêmes se stigmatisent, les autres parents, les autres mamans qui n'acceptent pas, ne peuvent pas permettre à ce que leur enfant parle avec même des visiteurs.
Oui.
Il y a des familles où l'enfant...
On l'enferme dans la chambre,
on ne
veut pas que les visiteurs la
voient. N'importe quel handicap. Il y a des handicaps autres physiques, on garde l'enfant à côté. Il y a des autistes également. Et on met l'enfant des côtés. Mais cet enfant, vous espérez à quoi? L'enfant ne peut pas évoluer. Donc il faut laisser que l'enfant, en contrôlant bien entendu, mais il faut que l'enfant, au fait...
entre en relation avec le monde...
L'inclusion, il faut inclure l'enfant, il ne faut pas l'exclure. C'est au fait très important pour que l'enfant évolue et comprenne.
D'accord. Alors, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de personnes trisomiques. Comment les accompagner pour arriver à l'inclusion, voilà, sociale. Justin Koulou, vous êtes à Fungurume dans le Lualaba. Gaston Gandou nous appelle de Kinshasa. Blaise Atoubou, vous êtes à Kisangani. Justin Koulou, depuis Fungurume. Bonjour. Justin, merci d'ouvrir votre micro. Vous êtes dans la commune de Fungurume, dans le Lualaba. Bonjour. Merci d'ouvrir vos micros. Gaston Gandou, vous êtes là? Bonjour. Bien, Blaise, il me semble que votre micro est déjà ouvert. Blaise, à tout bout de Kisangani, bonjour. Allô? Allô? Bien, nous parlons de des personnes atteintes de la trisomie 21. Comment les accompagner pour l'inclusion, leur inclusion sociale. Alors Blaise, vous êtes là. Bonjour.
Oui, bonjour cher Jody.
Bien, on vous
bonjour à l'invité ainsi que l'auditrice de la radio.
Quelle est votre préoccupation?
Je vais donner une contribution et citer par quelques questions. Au regard de cette thématique, à mon point de vue, le plus grand défi n'est pas le handicap lui-même, mais le regard de la société. Tant que les enfants, ces enfants seront perçus comme différents, plutôt que comme des individus à part entière, leur isolement persistera. Bon, il est donc essentiel de promouvoir une culture d'inclusion où chaque enfant, quelles que soient ses capacités, a sa place et peut développer son autonomie. Voici la première question, cher Jody. Comment changer les regards de la société sur les enfants trisomiques? La deuxième question, les écoles sont-elles suffisamment préparées à l'éducation inclusive? La troisième question, quel rôle l'État doit-il jouer dans l'accompagnement de ces enfants? Autre question, comment soutenir davantage les familles au quotidien? Et pour terminer, quel mécanisme mettre en place pour favoriser leur insertion professionnelle?
Bien,
je
merci.
À ce niveau-là, chérie.
Bien, merci Blaise à tout bout, depuis Kisangani pour toutes ces préoccupations. Justin Koulou, depuis Fongouroumé, dans le Lualaba. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui,
en tout cas, les pédagogues nous disent que l'enfant est un adulte en miniature. Il est facile à l'orienter. Si nous pouvons encore dire l'enfant est malléable. Pour ne pas aller très loin, monsieur Jody, je voulais savoir quel est le projet sur les enfants qui se trouvent sur les tables des ministères de tutelle, tels que ministère genre enfants et familles, la jeunesse et tout consort. Parce que le budget qu'on déploie est pour... chaque ministère, je pressens que c'est seulement pour payer les fonctionnaires et financer les déplacements, ainsi de suite, c'est fini. C'est ce qui nous met en colère et nous commençons à regretter et pleurer avec des grincements des dents. C'est ce que j'avais à poser à notre invité. Merci, monsieur Jody.
Bien, merci Justin Koulou, depuis la commune de Fongouroumé, dans le Lualaba. On va accueillir notre auditeur, il s'agit de Gaston Gandou, depuis la ville de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bon, la trisomie, c'est une maladie qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je pense que c'est une maladie, hein.
Bon, c'est une anomalie génétique.
Voilà. Donc, au lieu de posséder 46 chromosomes, on en a 47.
47 ans.
Un peu comme Jésus, quoi. Donc, c'est qui est né au-delà, qui est né sans spermatozoïdes, de l'ovule. Ce sont des phénomènes un peu naturels. Hein. Mais je pense, je sais pas, madame, si elle pouvait nous aider. Est-ce qu'il y a un traitement quant à ça? Mais aussi et surtout, nous brandir des images pour qu'on puisse voir comment se manifeste, comment on peut comprendre cette personne à cette maladie. Peut-être son enfant, comme elle vient de faire la révision. S'il y a des images, vraiment, qu'il faut mettre sur les plateformes de la radio Capi que nous suivons aussi. C'est une bonne chose pour qu'on puisse comprendre comment se manifeste. C'est une question aussi, peut-être qu'elle va expliquer comment se manifeste. Comment on peut comprendre que cet enfant
est trisomique.
Ou carrément aussi, comment éviter ça, parce que c'est possible. Je ne sais pas. Si ce n'est pas un miracle de Dieu d'être avec 47 au lieu de 46, et si ça dépend des comportements des conjoints qui vont leur détenir certains critères comme on voit avec les enfants de SS. On dit, bah, celle-ci, si vous vous mariez avec ça, ça peut donner ça, ça. Mais 47 chromosomes, c'est ce qui me fait étonner. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça peut être une innovation. Et puis...
Bien, merci beaucoup, Maître Gaston. D'accord, merci pour toutes ces préoccupations. Madame Bagunda, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. En commençant par Blaise Saïdi de Kisangane qui parle du regard des autres. Comment arriver à changer le regard de la société par rapport aux enfants trisomiques?
Par rapport à mon expérience, comme je venais de le dire tout à l'heure, il faut en parler. Moi, je me dis, ça peut même être des sujets à parler à l'école où on doit parler de la différence. Chaque personne est différente. Même les personnes qui ne sont pas handicapées, il y a toujours une différence dans les comportements.
Et on doit apprendre à s'accepter.
On doit
comme
apprendre
ça.
À s'accepter. Mmh. C'est-à-dire qu'en parler, en fait, sans tabou, en parler sans honte,
sans
en
gêne.
Parler sans gêne.
Oui.
C'est-à-dire que moi, mes amis, quand ils voient une vidéo d'un enfant trisomique quelque part, que ce soit une émission qui est en train de passer à la télé, directement, ils m'envoient un WhatsApp pour me dire, Yolande, je suis en train de suivre une émission d'une fille trisomique et tout. En fait, ça commence par la personne elle-même qui accompagne cet enfant. C'est-à-dire que je ne me stigmatise pas moi-même. Je ne vois pas des raisons à ce qu'on me stigmatise. En parler. À l'école où étudie Neema, donc, j'y vais à cette école, je parle à ces enfants et je dis aux parents de ces enfants de parler de cet handicap à la maison. Ce n'est pas seulement trisomique. Il y a des enfants qui ont autre regard. Il y a des enfants qui naissent ou des grandes personnes qu'on voit, par exemple, avec sixième doigt. En principe, c'est une anomalie parce que normalement, on a 10 doigts et on a 10 orteils. Mais quand le sixième arrive, il y a des gens qui font déjà on fait l'opération, il y a des coupures. Bref, il faut en fait en parler. Il faut en parler et répéter et sortir avec l'enfant. La personne que vous regarde d'un œil bizarre,
oui.
Comme moi, des fois je voyage et puis après vous voyez quelqu'un qui regarde Neema et il trouve que peut-être que l'enfant avec déjà le côté morphologie, les yeux bridés et tout. Et je demande à la personne, monsieur, s'il vous plaît, vous avez un souci? Ah non, madame. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut en parler d'abord vous-même, dans votre famille, sans tabou, sans quoi que ce soit. Donc il faut répéter en parler, à sortir de ça, pour que l'enfant soit inclus, au fait, dans la société.
Et puis, Blaise veut savoir comment, quel peut être le rôle de l'État dans l'encadrement des enfants trisomiques?
Le rôle de
l'État. Ou des familles, des parents, voilà.
Bien sûr, les parents, les familles, tout commence d'abord par la famille. C'est comme Association Sans Frontières. Quand Madame Liliane était venue, elle a eu, pour une parenthèse, elle avait eu des jumeaux trisomiques. Elle avait perdu un, et un est resté, qui est déjà aujourd'hui un grand garçon.
Il a quel âge?
Yann. Il doit avoir 24-25 ans par là.
Ok.
Elle s'était dit, si l'autre jumeau arrivait à 18 ans, à l'âge de 18 ans, je vais rentrer au Congo de Paris pour venir aider et parler de la trisomie 21. C'est alors qu'elle est venue. C'est par elle qui a eu les déclenchements, en fait, de parler de la trisomie 21, n'est-ce pas, et de prendre cette ampleur que ça a pris aujourd'hui. Où on reçoit de parents, on reçoit des enfants, comme demain, on a une activité au fleuve Congo, de la journée mondiale de la trisomie 21, où les enfants que maman Liliane encadre vont venir avec leurs parents. Et on échange avec cette problématique avec tous les parents. C'est-à-dire que pour l'État, on fait des plaidoyers. On parle de besoins de ces enfants. Il y a le besoin de ces enfants par rapport à l'état de santé d'abord, qui naissent avec des difficultés, d'où les familles qui n'ont pas des possibilités de soins de ces enfants, on les abandonne dans des hôpitaux. Et maman Liliane, deux fois, elle passe dans des hôpitaux, elle trouve un enfant
abandonné
par manque des soins, manque des possibilités. C'est-à-dire que l'État, n'est-ce pas, peut aussi voir comment on peut avoir l'accès aux soins de personnes avec handicap. Pour moi, je peux dire gratuitement si ça existe, mais avoir un budget à gérer ses enfants.
Mais est-ce qu'il y a d'abord des centres ou des écoles spécialisées pour ce genre d'anomalies?
Pour dire vrai, il n'y a pas d'école spécialisée. On a des écoles d'encadrement. Des écoles d'encadrement existent.
Oui.
Parce que pour qu'il y ait des écoles spécialisées, il faut qu'il y ait des spécialistes. il y a des logopèdes, il y a des ergothérapeutes, il y a de donc tout c'est une chaîne en fait multidisciplinaire qu'il faut pour que les enfants arrivent à être encadrés et par rapport à chaque handicap, parce que chaque enfant a son handicap et chaque handicap a son besoin particulier. Il y a des enfants trisomiques qui ne parlent pas, il y a des enfants trisomiques qui parlent, qui s'expriment très bien, oui. Et il y a les autres non. Donc ça dépend d'un enfant à un autre. Mais les professionnels maintenant qui peuvent étudier ça, ils peuvent venir avec leur expertise pour essayer de voir qu'est-ce qu'on doit donner à cet enfant par rapport à l'autre enfant. Donc l'État, s'il pouvait se mettre, on est habitué à entendre centre pour handicapés. Mais très souvent, on parle que de handicaps physiques.
Physique, oui.
Et pourtant, il y a aussi les handicaps psychaux. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui avec nos enfants.
Bien, donc, une autre question, de savoir de Gaston, comment reconnaître un enfant trisomique sur le plan physique, quand on croise un enfant, comment savoir qu'il est trisomique?
Ça dépend de comment l'enfant se présente, n'est-ce pas? Ils n'ont pas toujours le même trait. Il y a une tendance en fait. Vous avez des yeux bridés, vous allez voir, d'abord les yeux sont vraiment tirés, n'est-ce
comme
pas?
Comme les Asiatiques,
comme... Comme des Asiatiques, si on peut le dire. C'est comme avant, on appelait ça les Mongols.
Les Mongols, c'est,
on
oui.
le, on, voilà, on les associait au fait aux gens de Mongolie, n'est-ce
ouais.
pas? Parce qu'avec leur physique un peu. Donc moi, par exemple, comme je suis très habituée à Néhéma, si je vois un enfant ou une personne âgée à des aéroports, comme en Europe, à des restaurants et tout, ils travaillent et tout ce que tu veux. Donc, directement, je détecte et je sais que la personne a un handicap. Donc, il y a quand même des petits traits.
Il semble qu'ils ont aussi des visages plats. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ça dépend. Non, ça peut être allongé, ça peut être plat. Mais vous allez voir, il y a une petite différence. Il y a une toute petite différence. Il y a ce qui est très, très accentué. Et il y a d'autres traits qui ne sont pas du tout accentués. Mais quand le langage, dans les langages, il y a une tendance à balbutier. Mais lorsque l'enfant a eu la chance de rencontrer des logopèdes et tout, l'enfant parle clairement.
Clairement. Oui. D'autres signes, il semble que le développement physique, il se développe pas rapidement, ils sont des petites tailles, c'est vrai?
Ça, c'est quand ils sont enfants, n'est-ce pas? Quand ils sont enfants, il y a cette tendance lente. C'est vrai que l'enfant évolue à son rythme, on évolue lentement. Il y a le retard un peu de croissance, si vous voulez. Et marcher et tout, parler, il y a ce petit côté. Le pied sont généralement plats, n'est-ce pas? Et le niveau du cou, par exemple, un enfant trisomique, c'est parmi les signes que j'ai eu à connaître après. Donc vous allez voir, le cou de l'enfant ne tient pas. Et vous ne vous rendez pas compte si vous n'êtes pas au courant de l'handicap, en fait.
L'enfant le cou ne tient pas en
ne
place.
Tient pas, en fait.
Il a tendance à pencher la tête.
À pencher la tête. Donc c'est pas tout. Ça se fixe après. Ça se fixe après. Mais c'est parmi de petits signes qui peuvent bien sûr intriguer les parents. Mais si vous êtes au courant déjà de l'existence de l'anomalie en question. Voilà. Donc
il semble qu'il y a aussi ils ont un faible tonus musculaire au niveau des muscles.
Par contre, ils ont une élasticité terrible. C'est-à-dire qu'un enfant trisomique peut prendre sa jambe debout et tirer sa jambe et faire passer ça derrière son cou.
Son cou.
Donc ils sont très
élastiques,
n'est-ce pas?
Hein.
Voilà. Donc il peut s'asseoir sans mal, même dormir en fait. Elle peut dormir, elle plie les deux jambes et vous avez comme l'impression qu'elle a mal et pourtant elle n'a pas mal. C'est en fait ça. Il y a cette élasticité. Ça doit avoir peut-être un terme médical tout
ou approprié,
que j'ai pas.
Oui.
Voilà. Mais voilà, ils sont comme ça.
Alors prenons le cas d'un enfant trisomique qui grandit, par exemple Néma, elle est aujourd'hui une une adolescente. Comment vous gérez l'adolescence? Vient avec toutes les transformations au niveau corporel, au niveau émotionnel, sentimental. Comment vous arrivez à gérer cela?
L'adolescence d'un enfant trisomique, par rapport à mon expérience, ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de patience, c'est pas facile. Il faut un équilibre entre accompagnement médical, soutien psychologique et encouragement à l'autonomie de l'enfant. Le plus important, c'est favoriser au fait son inclusion d'abord sociale, respecter son rythme, n'est-ce pas, de développement, l'aider à traverser les bouleversements de l'adolescence. Il y a le changement corporel qui est là.
Elle a ses menstrues maintenant.
Bien sûr, donc il faut faire le suivi de tout ça. Et... le ressenti, il est important en fait de lui faire part de l'existence en fait de cette transformation de son corps et de la sexualité bien entendu, faire très attention bien sûr en respectant leur pudeur. Parce qu'un enfant trisomique, elle est comme ma fille, elle est innocente. C'est-à-dire, elle s'assoit comme elle veut. Il faut que, ah, Néhéma, s'il te plaît, tu peux bien t'asseoir. Néhéma, est-ce que tu peux, n'est-ce pas? Donc, et puis, pour elle, elle est comme toutes les autres filles petites adolescentes. Mmh. Aujourd'hui, elle a des tenues, n'est-ce pas?
Un peu sexy.
Sont, ben, bien sûr. Mmh. Donc, elle fait comme tous les autres enfants. Elle dit, mon maman, j'aime ça, j'aime cette culotte. Elle porte, elle, n'est-ce pas? Elle te dit tout. Quand je sors, je m'habille, elle dit, oh maman, tu es sexy. Donc, elle emploie les termes que l'emploi des autres enfants emploi aujourd'hui, et cette tendance-là. Maintenant, si elle tombe, n'est-ce pas, sur des personnes mal intentionnées, qui n'ont pas un cœur, n'est-ce pas, de personnes posées, les personnes, n'est-ce pas, il peut y avoir des abus.
Des abus, oui.
Et c'est ces abus-là qui font peur.
Et j'imagine, à cet âge-là, elle veut approcher aussi les garçons, les personnes des sexes opposés, les connaître.
Clairement.
Voilà. Elle a besoin de la compagnie.
L'école est mixte. Donc, elle parle. Elle a besoin de ça. Même le dessin animé, ça montre les couples, ça montre les enfants, comment les enfants grandissent. C'est-à-dire qu'elle sait, quand elle m'explique un dessin animé, elle me dit, maman, tu vas voir, maintenant là, les deux, ils vont se marier, et quand ils vont accepter, ils vont s'embrasser. Donc, elle connaît c'est quoi embrasser, et c'est une femme et un homme. Donc, elle évolue comme une adolescente. La peur bleue, ça colle à la peau, bien sûr. Mmh. Elle va aller où? Tu deviens un peu paranoïaque parce que partout où elle va, tu es obligé de contrôler.
Tu as peur, il faut vérifier qui sont tout autour.
Il faut le faire. Il faut le faire parce que après, vous allez vous créer des problèmes avec les proches ou les amis ou les voisins.
Il semble que les enfants trisomiques sont aussi trop, ils aiment beaucoup l'affection.
Ils sont trop câlins. Trop câlins. Mais ils font la différence. N'est-ce pas? Ça, c'est le câlin de qui? Le câlin de papa, le câlin de tantine, le câlin de tonton, mais en font des trop. C'est-à-dire que lorsque maintenant la personne ne se donne pas la place de ce que la personne représente devant cet enfant, la personne peut abuser. N'est-ce pas? C'est pas tous les hommes qui ont la conscience de dire que c'est mon enfant.
Oui.
Et les pas
oui,
faire le risque.
On a entendu des histoires dans des familles.
Ou alors les enfants, les autres enfants adolescents. Ça peut arriver, les cousins, les enfants des amis, il peut aller quelque part. Mais on est paranoïaque, en fait. Mais si on s'aime entre parents, on essaie toujours de chercher la solution, comment conduire ça.
Mais et est-ce qu'ils peuvent se marier aussi, fonder une famille normalement,
je
comme tout le monde?
Je beaucoup d'émissions jeudi. Mmh. Je vois, il y a des mariages. Je vois en Europe, je vois sur des émissions. Je suis très, très souvent... J'ai trouvé, il y a des couples trisomiques.
Trisomiques.
Oui, voilà.
Tous les deux.
Les deux. Souvent, on dirait, ils se captivent entre eux. En tout cas, j'ai vu beaucoup des couples trisomiques, c'est entre eux. Et certainement avec deux enfants.
Voilà. Des enfants trisomiques aussi.
Peut-être trisomiques ou pas.
Ou pas.
Ça, je sais pas, mais je vois avec le bébé et tout.
Bien, nous parlons aujourd'hui des personnes avec trisomie 21, comment les encadrer, les accompagner pour leur inclusion sociale. On va accueillir d'autres auditeurs. Jean-Noël Ouemboué nous appelle depuis le Lualaba. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, et Patricien Landry depuis Kinshasa. On commence avec vous, Jean-Noël Ouemboué Kitenge depuis le Lualaba. Bonjour. Bien, on va l'accueillir tout à l'heure. Nous rappelons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler. 085 42 11 547. 085 42 11 547. Appelez-nous à ce numéro si vous voulez participer, vous voulez prendre la parole en direct. Nous parlons des personnes trisomiques. Vous êtes peut-être papa, parent, maman, papa. Vous avez un enfant qui est dans cette situation. N'hésitez pas à composer ces numéros. Appelez-nous pour nous partager votre expérience. Jeannot Louemboué Kitenge, vous êtes au Lualaba. À Colisi, bonjour. Jeannot n'est pas encore disponible. Ismaël Mumpoy à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à madame.
Bonjour, on vous écoute, monsieur Ismaël.
Merci beaucoup pour m'avoir octroyé la parole. Mais je m'avais plus vite posé la première question par rapport à tout ce qu'elle a dit. Elle a dit que l'enfant était né. Après quelques années, elle a constaté qu'il y avait une toux qui ne se terminait pas. Ben, en fait, quand elle est allée à l'hôpital, le tout a continué. Elle est allée en Afrique du Sud. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait les trous au niveau du cœur. Nous appelons en médecine ça les trous botales. Ce qui fait parfois ce qui est la transmission de passage de l'air, de quoi.
Oui.
Madame, c'est une maladie congénitale ou une maladie progressive? Parce que nous avons vu que à la naissance, l'enfant ne présentait aucun signe de cette maladie. Vu que l'enfant a grandi, l'enfant, c'est un signe du non-Nema. Nema a manifesté certains signes. Par rapport aussi à l'organisme de l'enfant et le muscle d'Iker que nous avons, parce que ce sont des muscles très lisses, on peut dire, ou on peut se demander, quel est le rapport entre la trisomie 21 et la maladie en contre-indication pendant la grossesse? Par rapport à cela, si nous demandons un peu, comme les deux personnes de la trisomie 21 se marient ou s'épousent, on peut parler de cette maladie, une maladie héréditaire ou une maladie congénitale, parce que pendant la grossesse, madame a suivi ses examens, les côtes, tout était normal. C'est par après que la chose ne va pas. La raison pour laquelle s'est rendu dans des hôpitaux, quitter même les pays, aller ailleurs. Mais par rapport à l'adaptation de cet enfant, la question que je pose à madame, nous avons les quotients intellectuels que nous calculons, nous avons les idiots, les imbéciles, les intelligents, les doués, les super doués. Combien de pourcentage pouvons-nous donner à cet enfant ou à une personne atteinte de la trisomie 21 pourvu qu'il doit bien réinsérer dans le milieu intellectuel et professionnel? Tenez quelque chose. Mais maintenant, comment nous pouvons faire alors la différence entre la malformation que nous voyons dans, parmi les autres personnes ou les enfants de grandes personnes? Comment on peut faire la différence entre la malformation et la trisomie 21?
D'accord,
vous... Si la net ici, parce que la plupart des personnes qui ont une malformation, leur boulot après, c'est être un cordonnier. Mais par contre, nous avons vu au cycle passé de l'Assemblée nationale, il y avait une personne atteinte de la malformation qui était là. Aujourd'hui, telle qu'elle est, parce que je pressens vraiment que la dame est en mesure maintenant d'inciter les autres à mieux encadrer ses enfants.
Merci beaucoup. D'accord. Oui. Bien sûr, bien entendu, elle fait cet encadrement. Un instant, on va accueillir les autres auditeurs, Jeannot Louembwe et Patricien Landry depuis Kinshasa. Jeannot Louembwe, vous êtes là? Il n'est pas là. Patricien Landry, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, merci. Patricien.
Merci pour l'octroi de la parole. Je salue cette thématique qui est tellement très importante parce que la catégorie de ces enfants est tellement oubliée. La radio Okapi a fourni beaucoup d'efforts pour que les gens soient au parfum de cette malformation. Alors, ce que moi je pense, l'isolement de cette catégorie des enfants dans la société doit nécessairement créer un trou dans les relations interpersonnelles. Alors, on doit privilégier l'intensification de campagnes de sensibilisation sur l'inclusion sociale et l'accompagnement des enfants trisomiques. Parce que dans presque toutes les provinces, on ne fait pas cette campagne pour la catégorie des enfants trisomiques. Si on doit élargir les campagnes de sensibilisation pour la promotion la prise en charge psychologique, sociale et médicale des enfants trisomiques, ça serait très bien et très important. Alors, l'État aussi doit chercher un mécanisme pouvant aider à la prise en charge gratuite de cette catégorie d'enfants. Parce que nous voyons que l'État est en train de privilégier certaines catégories d'handicap et il y a certaines prises en charge. Par exemple, les enfants malnutris, on est en train de faire des sensibilisations. Il y a des projets qui sont montés, par exemple, la malnutrition à assise communautaire, NAC. On est en train de faire la distribution des micronutriments en poudre et on fait l'encadrement des enfants malnutris et c'est là qui ont la malnutrition chronique. Alors l'État aussi doit privilégier cette catégorie d'enfants parce que il y a certaines personnes et certains individus qui n'ont pas connaissance sur cette maldéformation. Alors c'est à l'État de prendre aussi ses responsabilités malgré que les efforts, parce que en suivant madame, elle a fourni beaucoup d'efforts aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais il peut y avoir aussi certaines familles démunies ne pouvant pas disposer les moyens colossaux pour la prise en charge médicale des enfants. Mmh. Alors ça serait un problème plus grave. Mais si l'État prend aussi ses responsabilités pour intensifier la gratuité de la prise en charge médicale de cette catégorie d'enfants, ça pourra aussi permettre à certaines personnes de bien encadrer les enfants, même si on peut aussi créer les écoles spécialisées pour les enfants trisomiques. Ça
merci.
Pourrait bien marcher.
Merci beaucoup, Patricien. Alors, merci bien pour... Oui. Oui, oui, on a plus beaucoup de temps.
Cette question,
oui. Oui, allez-y rapidement.
Ouais. Que faire pour mettre en péril la stigmatisation des enfants trisomiques et comment se fait leur prise en charge médicale?
Bien, merci beaucoup. Madame Bagunda, vous avez la parole.
Merci, jeudi. Je vais commencer par le monsieur qui était avant lui. En fait, ce n'est pas après les années que j'ai su le problème de l'enfant. Le problème de cœur, n'est-ce pas, j'ai su ça, c'était 2 mois après la naissance. Quand les toux ont commencé à persister, c'est après que j'ai su ça. Alors, je pense que me dire aussi d'emblée, du coup, d'une façon brute, peut-être que le médecin ici avait vu qu'il y avait ce problème de trisomique, qu'il ne pouvait pas me le dire d'une façon brute, mais on était d'abord en train de se focaliser sur le problème du cœur pour sauver l'enfant. Et comme il n'y avait pas à cette époque, en 2011, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, ce genre de chirurgie. C'est alors que je me suis déplacée, j'étais dans l'obligation de me déplacer pour aller faire le soin de l'enfant. Pour ce qui est de penser que c'est quelque chose qui vient progressivement, non. C'est-à-dire que c'est une anomalie qui survient lors de la division cellulaire.
Ce n'est pas une maladie héréditaire.
Ce n'est pas héréditaire. Hmm. Parce que je ne connais pas le progéniteur, il vient de sa famille. Moi, je suis de ma famille. Et après, ce qui est arrivé est arrivé.
Personne ne contrôle quoi que ce soit.
Personne ne contrôle. Hmm. C'est les deux personnes, en fait, c'est le couple qui fait, n'est-ce pas, la production de l'enfant. Et ce qui se passe à l'intérieur, ça se passe comme ça se passe. Donc, il y a deux enfants qui naissent avec autre anomalie. On entend beaucoup des réalités que peut-être ne se disent pas, mais il y a beaucoup. Ça, c'est de côté de dire que non, ça peut venir après. Non, 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 il n'y a rien d'après. C'est pendant, en fait, la formation, n'est-ce pas, de cellules, qu'il y a le chromosome qui passe de plus. Et puis, ça vient comme ça.
Et ça arrive dans la société que les gens traitent ces enfants des sorciers ou ils prennent cela comme...
La stigmatisation, comme le monsieur venait de dire. Parce
ouais.
que les gens ne sont pas informés. Et on ne peut pas connaître tout d'un coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'attelle sur ce sujet. Ça fait partie de ma vie. C'est une problématique que j'ai. Je vis avec. Donc, je parle de ça tous les jours. Ça fait partie de moi. Parce que je vis avec Néhéma tous les jours. Voilà.
Et vous partagez l'expérience avec les autres. Vous avez même rédigé un ouvrage.
Oui, j'avais rédigé l'ouvrage pour l'histoire de Néhéma. Je devais d'ailleurs... le deuxième ouvrage était en cours. Et malheureusement, mon éditeur, paix à son âme, il est mort.
Oh, dommage.
Donc voilà, on est en train de gérer,
un autre
de gérer autrement. Je l'ai déjà trouvé. Mmh. C'est pour parler maintenant de la de l'adolescence, en fait.
Le premier titre, c'était lequel?
C'était Néhéma avec le chromosome d'amour.
Ah, vous avez appelé ça chromosome d'amour.
Parce que c'est des enfants vivables avec beaucoup d'amour. Ils partagent beaucoup. Donc, pour, je ne sais pas s'il y a un autre point pour le monsieur qui est intervenu.
Oui, Ismaël, il est revenu par rapport au quotient intellectuel
très bien.
De ses enfants.
Les quotients intellectuels avec ses enfants. En fait, chaque enfant est surdoué dans son domaine. C'est comme les enfants qui n'ont pas d'handicap. Il y a des enfants qui n'ont pas d'handicap et ils ont, par exemple, dyslexie. difficulté d'apprendre. Il y a le dyscalculie, c'est difficulté de calculer. Et il y a de professionnels pour ça dans des classes. Donc il y a des enfants qui n'ont pas d'handicap et ils ont ces soucis. C'est l'enfant qui naît mais qui, l'enfant qui n'arrive pas à, ou bien les autres dans la littérature, l'enfant n'arrive pas. Et pourtant l'enfant n'a pas d'handicap.
D'handicap physique.
D'handicap, non, physique, il n'y a pas. Même psychologique, il n'y a pas. Il n'y a pas, n'est-ce pas? Mais l'apprentissage lui crée un souci. Maintenant, les nôtres, maintenant, avec le souci, comme l'enfant trisomique, je peux lui donner un pourcentage de quotient intellectuel. Pour moi, elle est indépendante. Elle fait ce qu'elle fait avec, n'est-ce pas, aptitude normale. Elle écoute. Elle participe à tout. Elle fait son lit. Elle fait la vaisselle d'une façon que d'autres personnes grandes ne font pas. Mmh. Elle est ordonnée.
Elle fait déjà la cuisine.
La cuisine, elle veut le faire par la curiosité, mais j'ai encore peur en fait du
Pourquoi
feu.
Pourquoi du feu, tout
ça. Oui, je me dis qu'elle ne maîtrise pas encore, mais elle me dit tout le temps non, maman, j'ai grandi, je peux le faire. Mais elle coupe les oignons, elle accompagne dans la cuisine et tous les restes. Donc elle connaît tout, tous les sens sont normaux. L'odorat, si elle sent une odeur, elle l'alerte. Si elle... Donc elle est normale. À l'apprentissage, maintenant, c'est là où crée, n'est-ce pas, cette, je veux dire, un petit souci des dysfonctionnements, parce qu'elle va à son rythme. Elle parle très bien, elle articule très bien.
Très bien.
Il y a les autres qui ne parlent pas comme Neema parle. Mmh. Malheureusement, elle est partie à l'école, je pensais venir avec elle aujourd'hui ici.
Et à l'école, elle fait des notes, des...
Elle fait des exercices à elle, parce qu'à son école où elle est pour le moment, il y a une, ils ont une structure d'encadrement des enfants à difficulté. N'est-ce pas? Donc c'est l'école normale, elle entre dans la classe normale pour l'inclusion, mais elle est accompagnée avec une personne, on l'appelle auxiliaire de vie scolaire. Elle doit avoir l'auxiliaire de vie scolaire pour qu'elle ne perturbe pas les autres, n'est-ce pas? Parce qu'elle, on lui donne des exercices un peu à son niveau, et les professeurs ou enseignants sont en train de, n'est-ce pas, d'enseigner les autres enfants, mais elle est dans la classe, c'est pour permettre l'inclusion.
Et on sensibilise les autres enfants, elle n'est pas se moquer d'elle.
On sensibilise et on l'aime.
Okay.
Et elle communique, elle vient, elle dit, maman, mes amis, c'est X, Y, Z. L'école connaît qu'elle est comme ça. À la récréation, elle partage avec tout le monde, gymnastique et tout ce que vous voulez. Pour maintenant, le futur, n'est-ce pas, pour la question de ce que l'enfant pourra faire dans le futur, travailler et tout et tout.
Oui.
L'enfant peut travailler à son domaine, peut travailler en sa manière. On peut former l'enfant. Il y a de mannequins trisomiques. Il y a de pâtissiers
trisomiques.
Il y a des serveurs à l'extérieur du pays trisomiques.
Et quelle tendance vous avez remarqué chez Neema? Elle est forte en quoi? Le domaine où elle excelle?
Neema, elle est forte un peu en art.
Ok.
Elle est forte en art. Elle adore tout ce qui est tendance, rangement, n'est-ce pas? Classer, toucher, organisation. Elle aime bien ça. Et comme elle est très structurée, et le service, mes amis qui m'entendent, ils sont en train d'entendre, j'ai beaucoup d'amis qui connaissent, quand ils viennent à la maison, c'est Neema qui sert. Et quand elle sert, c'est le genre, elle prend le plateau, elle connaît les goûts de tout le monde, et elle sait que ça c'est maman Nounou aime par exemple un jus d'orange, maman Jocelyne aime jus de mangue, maman X, Y, Z, ça dépend, donc elle maîtrise tout le monde. Donc, ses côtés, l'enfant, ça dépend du futur maintenant, là où elle est mairie. Elle fait le sport, elle fait le karaté, et là, quoi, ceinture bleue.
Ah ouais?
Elle a ceinture bleue maintenant, elle sait mettre des nids. Et voilà, elle a commencé à la ceinture blanche, elle est montée et tout.
Bleu déjà?
Bleu, n'est-ce pas? Et elle aime faire ça comme karaté. Elle peut être, mais n'est-ce pas, sportive, elle fait la natation également. Donc, on verra. Il y a beaucoup
mais
de changements.
Elle n'est pas violente,
Pas du tout pas violente, du oui. Elle fait de caprices comme tous les enfants. Elle boude deux fois quand on lui dit « Neema, c'est l'heure de dormir, on était à la télé », comme tous les enfants. Mais elle écoute et elle aime écouter et elle s'excuse aussi facilement et elle collabore. Elle est extraordinaire.
Extraordinaire. Gentil Bassokwamba nous appelle depuis Kananga, dans le Kasaï central. Bonjour Gentil.
Oui, bonjour Monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour aussi à Madame Pierre. Studio, vraiment.
Merci beaucoup.
Oui, Bassokwamba, dis-nous.
Je vous pose au moins trois questions seulement. Madame, selon vous, pourquoi les personnes vivant avec la trisomie sont-elles encore marginalisées dans notre société? Deuxième question, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que rencontrent les familles qui ont des enfants autonomiques? Troisième question, pensez-vous que notre système éducatif est suffisamment préparé pour accueillir ces enfants? Quatrième question, que faut-il concrètement mettre en place pour améliorer l'autonomie au quotidien?
Bien, merci. Vous avez parlé de trois questions, mais là, vous êtes déjà à quatre. Hein? Merci, Madame de Yolande Bagunda.
Alors, j'ai gardé la première question très rapidement. Mmh. Monsieur a parlé de la stigmatisation.
Pourquoi ces enfants sont marginalisés?
On marginalise ces enfants en amont par méchanceté.
Parce ou par ignorance. Hein?
Méchanceté. On ne peut pas ignorer. Pourquoi on n'ignore pas un handicap sur une chaise roulante? Pourquoi on ne stigmatise pas une autre forme d'handicap? Pourquoi? Et on doit stigmatiser les autres. Non. Déjà, c'est une méchanceté. Il faut en parler aux enfants. Il faut dire aux enfants, on ne fait pas ça. On voit une personne qui n'est pas comme vous. C'est arrivé à cet enfant-là. On n'a pas besoin de se moquer des aveugles. On ne se moque pas de muets, de sourds. On ne se moque pas d'une personne qui marche oblique ou bien...
Non. Qui n'est pas comme vous.
N'est-ce pas? Oui. L'ignorance, non. L'handicap, déjà, lorsque vous stigmatisez quelqu'un qui a un handicap, c'est la méchanceté. Donc, je crois que c'est ça ce qu'il faut. Il faut avoir un cœur de compassion. Pourquoi il faut attendre qu'on vous raconte l'histoire pour donner de l'espace à cet enfant? Non.
Et comment aider les familles qui ont des enfants? J'imagine qu'il y a beaucoup de familles qui cachent, qui n'arrivent pas à en parler. Comment les aider?
Bon.
Est-ce que votre association a un numéro de contact? Les gens peuvent vous appeler, un numéro vert? Les familles qui ont des soucis peuvent vous joindre?
En fait, ACF ouvert d'abord, n'est-ce pas? Avec l'activité qu'on organise pratiquement chaque 21 mars. La vice-présidente, maman Liliane, quand elle est à Kinshasa, ça se passe toujours, comme maintenant. On a cette activité demain, n'est-ce pas?
À l'hôtel du Fleuve, à Kinshasa. Mmh.
C'est ouvert, n'est-ce pas? On échange, les parents viennent avec leurs enfants, les autres parents qu'on invite ne viennent pas. Il faut d'abord que ça commence par les familles. Il faut que les familles se disent, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de stigmatiser, on n'a pas besoin de dire que notre sœur est comme ça, non. Et il est comme ça et il faut l'accompagner. Il faut accepter ces enfants-là. Il faut en avoir vraiment un œil, n'est-ce pas, positif pour les accompagner. On voit les handicaps, en fait, d'autres formes. Parce que c'est physique, on se dit, ah, oh, vraiment.
Pour les sœurs.
Oui, centre pour handicapés, oh, pour les, n'est-ce pas? Non, mais il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, parce que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas comme des malfaiteurs qui font des choses parce qu'ils savent qu'ils le font parce que c'est un choix. Non, ce n'est pas l'handicap. On ne peut pas dire qu'un Koulou n'a un handicap, non. Non, 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 non.
Ouais, c'est différent.
C'est différent, n'est-ce pas?
On arrive déjà à la fin de l'émission.
D'accord.
Quel message que vous pouvez... Qu'est-ce qu'on retient de ça, madame Dionne?
Par rapport à la personne qui venait de parler tout à l'heure... La sensibilisation des enfants est très importante. De n'importe quelle sorte d'handicap. On a des autistes, les parents ne dorment pas matin, midi, soir, ils en parlent. Et je crois que pour la trisomie, c'est très peu de parents qui en parlent, en dehors de notre association. Il y a aussi, c'est quoi, Bondeko, tout, qui a
le
aussi
village Bondeko.
Village Bondeko, qui garde beaucoup d'enfants, et que Madame Liliane, évidemment, ACF encadre.
Merci Madame Yolande Bagunda.
Les temps nous
les est temps, oui.
Encore envie de parler.
Ben, vous allez revenir prochainement. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Sans Frontières,
ACF,
qui s'occupe de l'encadrement des enfants vulnérables et particulièrement des enfants trisomiques. Exactement. Excellente journée, Madame Yolande Bagunda.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs pour leurs questions, leur participation.
À la prochaine.
Et à la CF. Merci.